Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans la longue nuit mérovingienne qui dura du 5e siècle jusqu'au milieu du 8e siècle, d'innombrables souverains se succédèrent sur le trône du Regnum Francorum, le royaume de France primitif. De Clovis II à Sigebert III, en passant par Dagobert III et Childéric II, la liste des rois francaliens donne le tournis. Et bien malin qui peut se vanter d'être capable d'en citer ne serait-ce que deux ou trois assortis de leur bon numéro. Parmi eux, un roi sort évidemment du lot, Clovis Ier, celui du baptême à Reims par l'évêque Rémy et du vase de Soissons. Mais qu'il s'agisse de nommer une femme, une seule, et alors là, à coup sûr, un nom, un seul, sortira toujours du chapeau, Frédégonde. Dans ce nouvel épisode en deux parties, je vous emmène sur les traces sanglantes de la terrible Frédégonde, la plus grande serial killeuse de l'histoire du Regnum Francorum. Mise à part Clotilde, épouse de Clovis, Berthe au grand pied, mère de Charlemagne, Frédégonde et Brunehaut, les deux inexpugnables rivales, nous ne connaissons guère les mérovingiennes. Et c'est assez paradoxal, car des femmes, nos aïeux mérovingiens, en avaient beaucoup. Peut-être même trop d'ailleurs. Prenez le bon roi Dagobert. Il était polygame, spécialiste de la répudiation éclair. Il eut 5 épouses, dont certaines simultanément. Gamatrude, qu'il épouse à 15 ans pour la répudier à 30, Nantilde, Rintrude, Vulfégonde et Berthilde. Osez prétendre que ces noms-là vous disent quelque chose. Bon, alors qu'on ne connaisse pas les épouses et concubines du roi Dagobert, passe encore, mais Suavegote, Gondioc, Méroflède, Marcovefa, Marcatrude et Théodéchilde, Vulfégonde et Vénérande, eh bien toutes furent des reines mérovingiennes. Or, cela fait bien 1400 ans que leurs noms ne disent plus rien à personne. Bon, où voulais-je en venir en évoquant ces nobles dames au nom accouché dehors ? Au constat que toutes ont sombré corps et bien dans l'oubli et l'indifférence. C'est dire si celles dont l'histoire nous a conservé les noms ont marqué leur temps. À commencer par Frédégonde et Brunehaut, qui, contrairement à Clotilde et Berthe au grand pied, furent amenées l'une comme l'autre à exercer le pouvoir seules, ayant toutes les deux perdu leur mari. Non pas des suites d'une longue maladie, car au temps des mérovingiens, il est bien rare de mourir dans son lit, mais tous les deux assassinés, soit par Frédégonde, soit par Brunehaut. Pour le coup, ce sont bien les noms de leur mari, pourtant petit-fils du grand Clovis Ier, qui sont passés aux oubliettes de l'histoire. Ils avaient pour nom Chilpéric, roi de Neustrie, marié à Frédégonde, et Sigebert, roi d'Austrasie, époux de Brunehaut. Frédégonde et Chilpéric, Sigebert et Brunehaut, deux rois, deux frères et leurs épouses, ont donc été les héros d'une saga familiale sanglante, une histoire de rivalité et de jalousie qui se déploya sur une cinquantaine d'années, sur fond de conquête du pouvoir et de règlement de comptes impitoyables. Rappelons au préalable un élément indispensable à la compréhension du déchaînement de violence dont l'époque mérovingienne fut le théâtre. Chez les Francs, le mode de succession est égalitaire. À la mort d'un roi, son royaume est donc divisé en autant de royaumes qu'il a de fils. Au fil des années, cela aboutit à un morcellement territorial qui engendre encore plus de violence dans les rapports familiaux, chacun n'ayant de cesse d'éliminer ses frères pour agrandir son propre royaume. À ces guerres fratricides s'ajoute chez les Francs la pratique ancestrale de la fête, sorte de vendetta du type corse ou calabrais, ou, si l'on préfère, de loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ces deux phénomènes conjugués, du partage égalitaire et de la vendetta, font du royaume de France des origines une arène sanglante, selon l'expression de Marcel Brion, ce que l'historien Fustel de Coulanges résumait pour sa part en ces termes.
La royauté mérovingienne est une monarchie absolue tempérée par l'assassinat.
L'épouvantable Frédégonde va s'appliquer à suivre à la lettre ce principe de gouvernement. Avant elle, le grand Clovis lui-même n'avait pas procédé autrement. Comment croyez-vous qu'il constitua son royaume ? Ben, tout simplement en exécutant les uns après les autres rois françaliens ou rhénans qui lui étaient apparentés. Ragnacaire et ses frères Rigomère et Richère, les rois Clodéric et Cararic. Puis il passera toute la fin de son règne à éliminer tous ses proches parents et alliés, membres de sa famille encore en vie. Autour de lui, tout le monde disparaît. Frères, neveux, fils. Voici ce qu'écrit à ce sujet son chroniqueur attitré, Grégoire de Tours.
Un jour, Clovis pleura devant ses sujets, se lamentant de ne plus avoir aucun membre de sa famille en vie. Ce n'était pas par affliction pour leur mort qu'il disait cela, mais par ruse, pour savoir si par hasard il pourrait en découvrir d'autres qu'il tuerait.
Clovis laisse quatre fils qui, tous ayant hérité d'une portion de son territoire, vont s'intituler « rois des Francs ». Avec eux, nous dit Grégoire de Tours,
« la barbarie se déchaîne, les instincts sauvages n'ont plus de bornes, leur vie et leur règne ne sont qu'une longue suite d'atrocités, souvent inutiles et accomplies avec des raffinements de perversité. Personne n'est à l'abri du poignard des assassins. Le frère tue le frère, l'oncle fait massacrer ses neveux sous ses yeux. »
Clotaire, l'un des fils de Clovis, fait tuer son fils Schramm et ses enfants en les enfermant dans une cabane à laquelle il met le feu. Puis il manque à son tour de se faire assassiner par son frère Thierry. Tout cela est monnaie courante. Nul ne s'étonne de voir frères et sœurs s'entretuer pour une femme ou pour une province ou par peur d'être tués s'ils ne frappent pas les premiers. Les sentiments humains sont inefficaces pour maintenir la concorde familiale. Seul l'intérêt peut commander de rester unis. Ainsi, les fils de Clovis installeront-ils leurs capitales respectives non loin les unes des autres, histoire de pouvoir se venir en aide en cas d'attaque d'un ennemi commun. Avec Clovis et ses descendants, nous sommes face à des familles si divisées que le meurtre est vraiment ce qu'il y a de plus commode pour se débarrasser de ses parents gênants et qu'il vaut mieux prendre les devants et s'enfermer dans un lointain couvent si l'on veut avoir une petite chance de dépasser la quinzaine. Citons encore un certain Clodoald, l'un des petits-fils de Clovis. À la mort de son père, ses deux frères sont assassinés sous ses yeux par des sbires de ses oncles. Il se réfugie dans un monastère, fonde un couvent près de Nogent et devient illustre dans la géographie chrétienne sous le nom de Saint-Cloud. Eh oui, le brave Saint-Cloud, dont une ville de banlieue parisienne porte aujourd'hui le nom, fut l'un des trop rares survivants de la barbarie familiale chez les Mérovingiens. À la mort de Clovis Ier, en 511, son royaume est partagé entre ses quatre fils, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire, qui deviennent respectivement rois de Reims, d'Orléans, de Paris et de Soissons. Clotaire survit à ses trois frères. Il ne meurt qu'en 561. Et il s'accapare donc leur royaume. Si les fils de Clovis étaient égoïstes, féroces les uns envers les autres, indifférents aux liens du sang, au moins avaient-ils agrandi le royaume de leur père, achevant le rassemblement de tous les territoires gaulois sous le gouvernement des Francs. Mais après eux, leurs descendants se livrent à une boucherie indescriptible.
Ni la parenté, ni l'hospitalité, ni la reconnaissance, ni les sentiments d'humanité les plus naturels, les plus élémentaires, ne mettent un frein à la sauvagerie de ces rois.
Le sentiment familial n'existe pas chez ces êtres. Génération après génération, les descendants de Clovis vont s'arracher les lambeaux de royaume. Brutes, incapables, sadiques et débauchés, ces petits-fils de Clovis, Saint-Cloud mis à part, auront bien trop à faire à se battre entre eux pour avoir la possibilité d'étendre les conquêtes de leur grand-père. Alors je le disais à l'instant, Clotaire a survécu à ses trois frères. Ah, seulement lui aussi a quatre fils, donc nouveau partage entre Charibert, qui reçoit Paris, Gontran, Orléans et la Bourgogne, Chilpéric, Soissons et la Neustrie, et Sigebert, Metz et l'Austrasie. La ville de Paris reste partagée entre les quatre frères et tous s'engagent par de grands serments solennels à n'y pénétrer qu'avec la permission des autres. Chilpéric, roi de Neustrie, est marié à Audovaire, dont Frédégonde est la servante. Cette dernière est simple fille de paysan d'origine gauloise, originaire, semble-t-il, de Picardie. Elle est très belle et semble très maligne.
Aussi belle que fourbe, dissolue et avide.
En tout cas plus intelligente qu'Audovaire, de sorte que Chilpéric en fait sa concubine. Il doit l'avoir sous le nez en permanence, puisqu'elle est la servante de son épouse. Et comme elle est bien jolie... En 511, Chilpéric combat en Bretagne, quand Audovaire accouche de leur quatrième enfant, une petite fille nommée Basine. Alors qu'elle se demande s'il lui faut ou non attendre le retour de Chilpéric pour faire baptiser le nourrisson, Frédégonde l'encourage à le faire sans attendre et à se choisir elle-même pour marraine de son enfant. Ce faisant, Frédégonde lui a tendu un piège cruel. En devenant la marraine de sa propre fille, Audovaire devient la commère de son mari, autant dire aux yeux de l'Église sa sœur. Désormais, si elle venait à coucher avec son mari, ce serait un abominable inceste aux yeux de l'Église. Audovaire s'est piégée elle-même, elle ne peut plus être l'épouse de son propre mari. Cette célèbre anecdote relève sans doute de la légende, mais elle en dit long sur le machiavélisme dont on croit capable Frédégonde. Dans ces conditions, quand il rentre de Bretagne, Chilpéric va fréquenter bien davantage le lit de Frédégonde que celui de sa sœur épouse, dirait-on chez les Égyptiens. De toute façon, Chilpéric considère qu'Audovaire n'est pas assez bien pour lui. Il lui faut une princesse, comme son frère Sigebert, roi d'Austrasie, qui lui a fait une alliance brillante en épousant Brunehaut ou Brunehilde, princesse wisigothe que l'on dit d'une taille élégante et très agréable dans sa conversation. Ils se sont mariés en grande pompe à Metz. Chilpéric en est jaloux. Par chance, si l'on peut dire, son frère Charibert vient de mourir. Il récupère donc une partie de son royaume et devient le proche et puissant voisin des Visigoths. Il leur demande donc et obtient en mariage Galsvinde, sœur aînée de Brunehaut. On est en 566. Bon, ça n'est pas le succès espéré, car contrairement à Brunehaut, Galsvinde est plutôt moche. Par ailleurs, elle ne s'entend guère ni avec son mari, ni encore moins avec l'omniprésente et influente Frédégonde, dont elle exige le départ. Malheureuse, maltraitée, Galsvinde n'a qu'une idée, fuir la cour de Chilpéric, rentrer en Espagne. Elle n'en aura pas le temps, car un beau matin... elle est retrouvée étranglée dans son lit. Frédégonde vient de frapper pour la première fois. Veuf des plus consolables, quelques jours à peine après la mort de sa seconde épouse, Chilpéric se marie une troisième fois avec Frédégonde, auteur ou commanditaire du meurtre de Galsvinde. Galsvinde et Dune. Apprenant la nouvelle de la mort de sa sœur, Brunehaut sait évidemment à qui l'imputer. C'est alors que naît sa haine inextinguible pour Frédégonde. Frédégonde le lui rend bien, qui est d'autant plus furieuse contre sa belle-sœur que celle-ci est princesse quand elle-même sera toujours renvoyée à son statut servile. Galsvinde étant morte assassinée, Chilpéric est convoqué dans une assemblée au cours de laquelle sera décidé ce qu'il devra rendre, cité, territoire, de la dot de sa défunte femme. C'est une sorte de compensation financière que l'on appelle le Vergelt. C'est Brunehaut et ses descendants qui hériteront notamment de 5 cités d'Aquitaine, Bordeaux, Limoges, Cahors, Béarn et Bigorre. Chilpéric feint de se soumettre au jugement de l'assemblée, mais part aussitôt en guerre contre son frère. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Xavier Joly. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend bien sûr sur le site d'Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de ce récit au cœur de l'histoire consacré à Frédégonde.